Ben, ce matin, je vais m'appuyer sur ce passage qui me dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est vrai. Ben voilà, je suis humain hein, comme vous, puis le refroidissement, le rhume, ça fait partie aussi des réalités. Hein. Mais voilà, il faut faire face et puis il faut aller de l'avant. Allez, on va se concentrer sur l'essentiel. J'espère que je vais pouvoir tenir bon jusque-là, jusqu'à la fin. Et j'aimerais lire juste un passage avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 13, où Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Et moi, j'aime beaucoup la traduction d'André Chouraki, qui nous dit, enfin, qui transpose ce mot, qu'il transforme et dit, si vous savez ces choses, vous êtes en marche. Amen. En marche. Ça marche. Voilà, comme Nicolas l'a rappelé, tous ces derniers messages, on a essayé de remonter en fait la piste, la filière, à partir de ce passage où Dieu encourage Caïn à dominer le péché, qui couche à sa porte, qui porte ses désirs vers lui. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Si je comprends cette offre que Dieu me fait aujourd'hui, comme il l'a fait à Caïn, eh bien, je vais découvrir en fait les principes de Dieu, je vais découvrir la volonté de Dieu et je vais découvrir comment dominer le péché. Je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire, n'est-ce pas, le péché. On a refait un peu l'histoire, on est remonté un petit peu l'histoire du péché. On a vu que c'était un fléau destructeur, qu'on avait tous en tant qu'être humain à faire avec le péché et que souvent on était dominé par le péché, même quand on ne le veut pas. Et même en tant que chrétien, parfois nous avons des luttes et des combats, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous demander de lever la main pour ceux qui n'en ont pas. Mais c'est la réalité. Mais face à cette réalité, Dieu a des réponses. Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des choses à nous faire comprendre. Et si vous savez ces choses, si je sais ces choses, alors je vais être en marche. Parfois, mais je vais passer par des moments un peu de faiblesse, mais je vais continuer de marcher. Parce que ce que Dieu me transmet, me donne, sera assez puissant pour me faire marcher jusqu'au bout. Amen, oui. Donc on a vu que pour nous convaincre de péché, qu'est-ce que Dieu utilisait? Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la loi. Hein, avant de donner son Fils unique, c'est une grâce d'avoir la loi. Parce que la loi, elle me révèle mon état naturel de pécheur. Alors imaginez si l'humanité mettait en pratique les seuls 10 commandements. Si l'humanité pouvait juste obéir à ces 10 commandements. Vous ne pensez pas qu'elle irait mieux? Si j'étais capable, moi, de répondre à ces 10 commandements auxquels chacun et chacune adhère d'une manière ou d'une autre, chacun peut souscrire à ce que ces 10 petits commandements, c'est pas énorme. Quand on voit aujourd'hui dans notre monde les millions de commandements qu'il y a, tout ce que l'être humain fait, c'est un ensemble de commandements qui m'oblige à les faire. C'est impressionnant. Et Dieu nous donne 10 commandements. Nous avons vu à l'origine que Dieu avait donné un seul commandement à Adam et Ève. Ne mange pas de ce fruit hein, défendu. Et ils se sont dévêtus de ce commandement. Ils se sont retrouvés nus. Ils se sont retrouvés séparés de la présence de Dieu. Donc imaginez si le monde entier disait maintenant on s'arrête et on ne tue plus. Qui est pour? D'accord. Parce qu'on vote aujourd'hui, hein. On demande au monde entier qui est réuni dans cette salle, qui est d'accord de ne plus voler? Levez la main. Waouh, tout le monde est d'accord. Qui s'abstient de porter de faux témoignages? Waouh, tout le monde dit oui. Alléluia. Qui veut honorer son père et sa mère? Alléluia. Tout le monde dit oui. Magnifique. Hein? 10 commandements. Tout le monde est d'accord à la base. Vous pouvez aller en Afrique, vous pouvez aller au Japon, vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller en Alaska, vous pouvez demander aux pingouins. Tout le monde est d'accord. Tout le monde. Parce que ça répond à notre nature de dire mais ça serait tellement beau de pouvoir vivre dans un monde. Et surtout de mettre Dieu à la première place. Ça, c'est quelque chose qui va faire basculer une vie, qui va faire basculer l'humanité. Mais on voit que la réalité nous révèle l'incapacité récurrente de l'humanité d'accomplir ses lois. Qui peut dire qu'il a accompli ses 10 lois? Personne. Personne d'entre nous. Tous nous avons failli à un moment donné ou à un autre. Donc, comme tout un chacun le sait, quand on transgresse une loi, eh bien, on est arrêté, on est jugé et on est condamné. Personne ne s'offusque lorsqu'un voleur est pris en flagrant délit, qu'on l'amène devant un tribunal et puis qu'on dit à ce monsieur ou à cette dame, ben maintenant vous allez passer une année en prison. Personne dit, mais c'est injuste, il n'a pas beaucoup volé, il a juste volé 100 francs, c'est quand même pas grave. Il a volé, point la ligne. Il est jugé et il est condamné. Qui peut s'offusquer qu'un criminel soit jugé et condamné à 10, 15, 20 ans de prison? Mais personne. Parce que c'est ce qu'il mérite, c'est ce que je mérite. La loi a donc comme raison première de nous juger, de nous condamner. Elle est intervenue, nous dit Paul, afin de démasquer le péché et de nous mettre dans cette situation de condamnation. Elle nous enserre de partout. La loi que Dieu nous donne nous enserre de plus en plus près. Pourquoi elle le fait? Pour nous montrer nos limites, pour nous montrer notre incapacité naturelle. Et à partir de ce moment-là, quelque chose de nouveau peut se passer pour celui ou celle qui se laisse convaincre de péché. Oui, c'est vrai, j'ai volé. Oui, c'est vrai, j'ai menti. Oui, c'est vrai, je n'ai pas honoré mon père et ma mère. Oui, c'est vrai, je n'ai pas mis Dieu à la première place. Oui! Ben, tant pis, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Non. Si je me laisse convaincre de péché, parce que, comme on l'a vu lors du dernier message, on peut être habité d'un sentiment de culpabilité, mais le sentiment de culpabilité ne va pas changer ma vie. Ça va juste me mettre dans une zone d'inconfort. Mais je me dis, bon, je vais essayer d'arranger la chose. Je ne volerai plus pendant quelques mois. Donc voilà, ça s'équilibre. Mais ça ne change pas ma vie. Ça ne change pas la réalité de ma nature de péché. Donc, on voit que la loi nous enserre de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment donné, à un moment précis, je dise non, stop là. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de cette puissance du péché qui habite en moi, disait Paul. Lui, il n'a pas dit qu'il couche à ma porte. Il a réalisé que le péché habitait en lui. Misérable que je suis. Alors, ce matin, on va voir que le rôle de la loi, ce n'est pas seulement de nous convaincre de péché. Ce n'est pas seulement de nous montrer « tu fais faux, tu fais faux, tu fais faux ». Le rôle de la loi, nous dit l'Écriture, c'est aussi comme un pédagogue qui nous conduit là où on doit être conduit. Vers le Sauveur, vers le Messie, vers la descendance de la femme, Genèse 3,15, qui écrasera la tête du serpent. La loi, elle nous conduit vers la seule issue possible, la seule porte de sortie. Elle nous conduit en Christ. D'ailleurs, Jésus a dit en Jean 10, 9, « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. » Donc, la loi va provoquer cela en nous. Elle a été comme un précepteur, comme un pédagogue. D'ailleurs, dans le monde romain de l'époque, vous aviez des esclaves qui étaient censés conduire ou étaient chargés de la surveillance des enfants jusqu'à leur majorité. Donc, ils prenaient soin d'eux, ils les encadraient. Ils faisaient une faute, hop, ils les conduisaient vers les maîtres pour qu'ils apprennent les choses essentielles de la vie. Donc, ces gens-là étaient continuellement autour des enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint une certaine maturité. Eh bien, la loi va nous conduire, nous mener à l'école de Christ. Donc, on voit qu'à un moment donné, si je suis ouvert, disponible à l'action de Dieu qui me convainc de pécher, il y a un processus divin qui va s'enclencher. Un processus divin dans lequel je vais pouvoir entrer, qui va me conduire de la prise de conscience de mon état de péché à la confession des péchés. De la confession des péchés à la repentance, de la repentance au pardon, du pardon à la conversion, de la conversion à la nouvelle naissance, c'est un chemin nouveau qui s'ouvre devant moi. C'est précis, c'est clair. Voici le chemin, marchez-y. Il y a des étapes de vie. Alors, ces choses-là, bien sûr, elles peuvent se passer en très peu de temps. Moi, j'ai vu des gens être convaincus de pécher sur un trottoir. On est en train d'évangéliser dans la rue, à la place centrale. On sortait le jeudi soir, on allait évangéliser. Voilà, on tombe sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. On discute 3 minutes avec cette personne et elle est saisie. Elle prend conscience de son état de péché. Elle demande pardon. Elle nous demande, enfin, on lui demande de prier pour elle. Elle accepte. Tu veux donner ta vie à Jésus? Oui, ben, ça se fait en quelques minutes. Après, il faut prendre conscience de ce qui s'est passé. Et puis d'autres, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps d'une étape à l'autre. Mais on sent que quelque chose bouge, que l'horizon est en train de se dégager. Vous vous souvenez l'image de la croix qui était dans la brume, comme ça, sur la colline? Ben, on ne voit pas très bien encore ce que c'est, mais il y a un signe qui nous est donné, un lieu de rendez-vous. Et Dieu nous donne rendez-vous là, au pied de la croix. Et c'est là qu'il va pouvoir faire une œuvre en profondeur. Dans Colossiens 1,13, il est dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Chacune et chacun d'entre vous ce matin pourrait partager en quelques instants cette étape qui a été la sienne. Si vous êtes né de nouveau, vous avez passé par ces étapes. Ou peut-être que vous êtes au milieu, vous êtes en train de vivre ce processus divin qui s'est enclenché en vous. Alors, certains peuvent dire, moi je me suis converti le 13 août 1963. Puis d'autres vous diront, tout ce cheminement, ça s'est fait sur plusieurs mois, plusieurs années. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'on soit en connexion avec Dieu. C'est que quelque chose se passe à l'intérieur de nous qui nous dit, ça y est, cette fois, c'est bon. La lumière s'est allumée. J'ai passé des ténèbres à la lumière. J'étais perdu, je suis sauvé. Je vivais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière. Enfin, c'est tous des termes qu'on utilise pour dire oui, quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. Je ne l'invente pas. Je ne l'ai pas lu dans un livre, puis je commence à le réciter tous les matins en disant oui, maintenant j'étais dans les ténèbres, je suis dans la lumière. Non, on ne tiendrait pas longtemps. C'est parce que quelque chose d'effectif, de concret, s'est produit au plus profond de moi. Amen. Quand on parle des fois avec des gens qui nous disent mais moi, j'en pouvais plus, j'avais 100 tonnes sur les épaules. Et le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, ces 100 tonnes sont parties. Et ma vie est devenue légère. Voilà, c'est tous des témoignages comme ça qu'on peut capter de part et d'autre. Mais si cette nouvelle naissance nous ouvre désormais aux réalités nouvelles du royaume de Dieu, cela ne suffit pas pour faire de nous des super-héros ou des Batman de la foi. On ne peut pas se baser sur des événements émotionnels. Moi, j'ai vu des gens pleurer lorsqu'ils se convertissent, n'est-ce pas? Ils sont saisis, ils commencent à pleurer, d'autres crient peut-être même. D'autres disent, mais ce jour-là, j'ai senti une chaleur dans le dos, ou quelque chose qui m'a visité. Mais ce n'est pas sur ce genre d'expérience-là que je vais pouvoir trouver l'assurance dont j'ai besoin pour dominer le péché. Ça, ce sont des expériences qui me démontrent concrètement que oui, Dieu est en train d'agir en moi. Mais ce n'est pas sur ces bases-là que je vais pouvoir dominer le péché. D'ailleurs, souvent, on constate, après les premières expériences de la vie chrétienne, où tout est nouveau, où on découvre, où on vit ce genre d'émotion, il y a certaines personnes, certains chrétiens qui paniquent un peu parce qu'ils disent mais maintenant, je ne vis plus les mêmes émotions. C'était tellement beau au début, je sentais Dieu. Maintenant, je ne le sens plus. Est-ce que je suis converti? Ils commencent de douter, ils commencent de remettre en question ce qu'ils ont vécu il y a quelques mois ou quelques années auparavant. Ils oublient un petit peu, là, dans ces moments-là, qu'on est appelé à marcher par la foi, et non par la vue, non pas par les sentiments, non pas par les émotions, mais par la foi. Donc, s'il y avait des gens qui auraient pu surfer sur des expériences émotionnelles, spirituelles et tout, c'est bien les premiers disciples, parce qu'ils en ont vécu des choses. Eh bien, on ne reçoit pas d'eux l'enseignement que notre vie chrétienne est faite que de ça. Et ce n'est pas ça qui va me donner l'assurance et l'autorité pour dominer le péché. Alors, comment dominer le péché? Comment dominer ce principe actif qui agit en moi? Cette puissance qui est alliée à un monde rebelle, c'est-à-dire tout le monde spirituel en rébellion. Comment je peux faire pour exercer ma suprématie? Parce que dominer, ça veut dire ça. Exercer la suprématie, ça veut dire tenir sous son autorité. Je tiens sous mon autorité. Je maîtrise. Ou être en position surélevée par rapport à autre chose. Quand il a dit « assis avec Christ dans les lieux célestes », on comprend ce que ça signifie dans ces moments-là. Donc, comment est-ce que je peux, à un moment donné dans ma vie, réellement entrer dans cette nouvelle attitude où je ne suis plus dominé, mais où je domine? Qu'est-ce qui peut me rendre capable de dominer le péché? Qu'est-ce qui va me donner cette assurance et cette autorité pour voir s'inverser en fait le cours des événements? Qu'est-ce qui va faire que de dominer, je devienne maintenant dominant? Alors, c'est clair qu'il faudra plus que de dire « j'ai senti une chaleur dans mon dos » ou « j'ai pleuré ». Là, le péché, il n'est pas tellement sensible à ce genre d'argument-là. Il faudra quelque chose d'un petit peu plus solide. Et je dis, pour m'appuyer sur des éléments, des arguments solides. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Je vais pouvoir, pour dominer le péché, m'appuyer sur ce que Jésus a fait et accompli à la croix, à l'égard de la loi et dans les cieux. C'est un peu technique, mais vous savez, parfois on est les champions dans les milieux type évangélique charismatique de mettre un accent tellement fort sur le spirituel qu'on oublie la technique. Or, si on veut être très spirituel, il faut être très technique. Si je comprends bien les choses, je vais bien les vivre. Vous savez, il y a tous les maris qui sont partis à Ikea en bombant le torse, en pensant qu'ils allaient en mettre plein la vue à leur chère épouse, parce qu'ils allaient pouvoir monter le meuble, acheter sans le mode d'emploi. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de maris qui ont sué sang et eau et qui ont été déshonorés devant leur femme parce qu'au bout de 4 heures de temps, ils étaient toujours en train de déballer le carton. S'il y a des modes d'emploi, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour ennuyer les gens, les modes d'emploi. Moi, je n'aime pas les modes d'emploi. On achète une nouvelle voiture, un mode d'emploi, il y a 400 pages. Je dis, mais attends, moi, je m'asseye dans ma voiture, je n'ai même plus besoin de mettre la clé, je presse sur un bouton, c'est parti. Là. Mais qu'est-ce que je veux faire avec un mode d'emploi? Et tout d'un coup, pouf, il y a un petit voyant qui s'allume. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Mais regarde le mode d'emploi, comme avec Ikea. Comme ça, tu pourras monter ton armoire sans peine. Et parfois, en tant que chrétien, on se dit, « Oh, mais je suis chrétien, oh, je suis né de nouveau, oh, j'ai pleuré sur mes péchés, oh, j'ai senti une grande chaleur dans mon dos, oh, j'ai été libéré de... » Mais ça ne fait pas de toi, encore une fois, un Batman. Ça ne fait pas de toi un super-héros. Donc, on voit qu'en tant que chrétien, nous devons nous appuyer sur des éléments forts, des éléments vrais, des éléments rationnels et spirituels, des preuves. On ne peut pas se limiter à des choses passagères ou à des émotions. Donc, vendredi 15h, le 15 de Nissan, on remonte à près de 2000 ans en arrière, quelque chose va se passer sur ce qu'on appelle la colline, le mont du crâne, le mont Golgotha, n'est-ce pas? Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant cette parole, il mourut. Il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire avec un mort? On le descend de la croix, puis on le met dans un tombeau, comme on l'a fait avec des centaines et des milliers d'autres personnes. Ça, c'est la partie visible. Ça, c'est ce que l'œil humain voit. Mais il y a la partie invisible des choses. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Tout ce qui s'est produit de l'autre côté du voile, ici derrière, ce que l'œil n'a pas vu. Il y a un ensemble d'éléments et d'événements qui vont se produire dans le monde spirituel. Et si tu sais ces choses, tu vas être en marche. Si tu ne connais pas ces choses-là, tu ne vas pas avancer d'un iota. Tu vas entretenir ta religiosité chrétienne, peut-être. Tu vas essayer de démontrer à Dieu que... Mais le péché continuera de te dominer dans un domaine ou dans un autre. Et si nous voyons ce qui s'est passé de l'autre côté du voile, alors nous recevons une connaissance des choses qui vont nous permettre d'être dans une assurance absolue. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il est dit dans la parole que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, 2 Corinthiens 3, 15, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, vrouf, le voile est ôté. Pourquoi? Pourquoi le voile est ôté? Pour qu'on y voit clair. Vous avez déjà marché avec un voile devant les yeux? Et ça, c'est la grâce de Dieu aussi. Il enlève de moi ce voile qui m'empêchait de comprendre les choses qui font partie du monde spirituel, mais qui sont aussi réelles que celles que nous voyons avec nos yeux. Et lorsque le voile est ôté, alors nous voyons les choses par la foi. Et la foi va entrer dans ces réalités. Elle va entrer dans ces choses qui se sont produites au-delà du mont Golgotha, au-delà de ce moment où Jésus meurt sur la croix. Alors la première chose, il va s'occuper de la loi. Qui savait ça? Jésus s'occupe de la loi. Qu'est-ce qu'il est dit? D'abord concernant la loi, je ne vais pas le répéter, le rappeler, mais cette loi, elle nous jugeait, elle nous condamnait. Elle démasquait en nous, elle mettait en lumière mon péché. Et ce n'est pas agréable, encore une fois. Elle a vraiment bien fait son rôle. Et je bénis le Seigneur pour la loi. Je bénis le Seigneur pour la loi. Mais, à partir du moment où Jésus a donné sa vie sur la croix, il est dit, en Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il l'a éliminé en la clouant à la croix. Vous voyez ce qui s'est passé? Personne ne l'a vu avec les yeux humains. On n'a pas vu Jésus apprendre parchemin puis clouer sur la croix. C'est avec les yeux de la foi, parce que le voile est tombé, que je peux voir ces choses. Moi, je vois maintenant l'histoire invisible. J'entre dans ce qui est invisible. Et c'est la grâce de Dieu. Et je comprends à ce moment-là que l'acte, quelqu'un traduisait l'acte aux mille articles qui nous accusaient, car il mentionnait toutes nos transgressions, il l'a annulé, il l'a cloué à la croix. Est-ce que tu le vois avec les yeux de la foi? Cet acte qui est là sur la croix, paf, Jésus, il n'est plus dessus. Mais c'est cet acte-là maintenant qui est cloué sur cette croix. Il n'aura plus d'effet sur ta propre vie. C'est terminé. Amen. C'est pas mal, hein? Mais quand je sais ça, je suis en marche. Je peux faire le pas suivant. Si je doute, si je ne suis pas sûr que Jésus a accompli cette œuvre, je me dis, oui, à la grâce, mais je ne sais pas, mais peut-être la loi, c'est peut-être quand même pas mal. Quel a été le problème des chrétiens de Galate? Tout le temps, excusez-moi, mais le derrière entre deux chaises, un petit peu la grâce. Ah non, mais la loi, c'est quand même pas mal. Peut-être que si j'arrive à prouver à Dieu, on n'en sort plus. Mais quand je sais ces choses, alors je suis en marche. Deuxième chose que Jésus va faire à la croix, une fois après s'être occupé de la loi, il va s'occuper et régler son compte à Satan. Alléluia. Hein? Jésus va s'occuper de celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2, 14, et de toutes ses dominations et toutes ses autorités dans le monde céleste, ces souffles contaminés qui ne cherchent qu'une chose, nous séparer de Dieu ou de nous maintenir séparés de sa présence, de la sainteté de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que Jésus va faire à la croix? Ça non plus, le regard humain ne le voit pas. Les gens qui sont en train de pleurer, toute l'équipe des disciples, ils ne le voient pas encore. Mais à ce moment-là, il est dit que Jésus va les dépouiller, c'est-à-dire les déposséder entièrement. Si tu sais ces choses, tu es en marche. Si tu ne le sais pas, tu tournes en rond. Il va les dépouiller. Il leur ravit cet acte. Vous savez, hein, l'ennemi, il est très subtil. Quand tout va bien, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il va sortir l'acte, il va te rappeler. Oh, tu vas bien, mais dans le fond, tu ne vas pas si bien que ça. Regarde, tu es condamné, regarde, tu continues de pécher. Hein? Moi, j'ai connu des gens, c'était terrible. C'était en haut, en bas dans leur vie chrétienne. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils étaient pris au piège par l'ennemi qui venait leur rappeler des choses. Alors, s'il vient nous rappeler des choses qu'on a oubliées, qui sont de l'ordre du péché, pour qu'on puisse les confesser, alléluia, il fait encore une œuvre contraire à ce que... Hein? Mais si c'est pour nous amener dans la dépression, si c'est pour nous amener dans un chemin sans issue, il a gagné la partie. Hein? Avec Jésus, quand il n'a pas réussi au désert, qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Satan a attendu un moment favorable. Alors, s'il a fait avec Jésus, imagine-toi avec toi. Hein? Donc, c'est quelque chose d'important. Il va les dépouiller, ces dominations. Il leur ravit cet acte de condamnation qu'ils utilisaient pour nous accuser continuellement et nous maintenir hors de la portée de Dieu. Et puis, il est dit qu'il les livre publiquement en spectacle. Vous croyez que les gens qui étaient dans la croix, ils voyaient un spectacle glorieux? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passait à l'époque des Romains? Quand un général partait en guerre et qu'il était revenu victorieux, il traînait derrière lui l'armée vaincue. Hein, là, on voit quelques images, voilà, l'armée vaincue. Il était dans la gloire, la populace l'honorait, applaudissait, etc., etc. Jésus est le général victorieux. Et dans le monde spirituel, il est dit qu'il a livré publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il y a dû avoir un cortège dans le monde spirituel, où tous les démons et tout le monde démoniaque derrière lui, enchaînés, peut-être paru devant les anges, je ne sais pas. Il y a dû y avoir des spectateurs dans le ciel, ce n'est pas possible. Nous, on ne l'a pas vu ici-bas. Mais puisque la parole de Dieu nous le dit, c'est que ça s'est vraiment réalisé. Le monde entier, les milliards, je ne sais pas combien d'anges il y a dans le monde, ils ont vu ce spectacle. Ils ont vu ce général en chef, Jésus, qui à la croix a remporté la victoire. et derrière lui, tout ce monde démoniaque enchaîné, complètement dépouillé, et il les livre publiquement en spectacle. Est-ce que vous voyez ça avec les yeux de la foi? Si vous savez ça, vous êtes en marche. Parce que ça a été fait. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas des romans à l'eau de rose. C'est une réalité. Ça s'est produit dans le monde spirituel. Et à partir de là, il est dit en Hébreux 2,14 qu'il rend par là impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Il le rend impuissant. Bien sûr, à l'égard de ceux qui croient. À l'égard de ceux qui ne croient pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne veulent pas. Donc, Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. 2 Timothée 1,10, la venue de Christ, notre Sauveur, a réduit la mort à l'impuissance. Si tu sais ces choses, tu es en marche. Parce qu'il vient constituer en toi une source de savoir, de connaissance, qui est de l'ordre de la vérité. Alors que tant de gens mettent ça en doute, ça c'est la vérité, ça c'est la réalité sur laquelle je peux m'appuyer. Amen. Alors, je ne parlerai pas, parce que c'est un petit peu, ouais, c'est assez spécial. Quand il est dit dans un passage dans Éphésiens 4,9 que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre pour en soustraire des personnes. On ne va pas s'arrêter là, mais ça c'est quelque chose que Jésus a fait aussi. Parce que certains commentateurs pensent que c'est simplement les êtres humains qu'il est venu sauver. D'autres pensent qu'il est descendu dans le séjour des morts. Mais bon, là, je n'ai pas assez d'éléments. Mais c'est déjà pas mal ce qu'on va voir ce matin. Donc, il s'occupe de la loi, il s'occupe de Satan et de tout le monde démoniaque. Et en fin de compte, c'est intéressant de voir cela. En fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire après avoir accompli ça? Il va monter vers le Père. C'est intéressant de voir dans Jean 20, 17, quand Marie arrive et comprend que c'est Jésus qui est ressuscité, elle a envie de le toucher, de le prendre dans ses bras. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit, non Marie, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté. Mais qu'est-ce qu'il va faire alors? Après s'être occupé de la loi et de Satan, Jésus va accomplir ce qu'aucun autre être humain n'aurait été capable de faire. Hébreux 4,14. Il a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu ou devant la face de Dieu. 9,12. Il a pénétré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour offrir son propre sang. Est-ce que vous voyez ces choses par la foi? Par les yeux de la foi? Hébreux 9,24. Afin de se présenter devant Dieu en notre faveur. Waouh. 9,12. Il nous a acquis une rédemption éternelle, une libération définitive, une réconciliation éternelle avec Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé dans les cieux? Si tu sais ces choses, tu es en marche. Si tu ne sais pas ces choses, tu tournes en rond. Et il a été déclaré juste, Romains 6, 19, par l'obéissance d'un seul, tous seront rendus justes. Tous ceux qui se placent sous le justifié sont rendus justes. Comme on a été condamné parce qu'il y en a un qui a désobéi, Adam, maintenant tous ceux qui se placent en Christ, ils ont une rédemption éternelle. Romains 4, 25, il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. À partir de cet événement ou de ces événements qui ne peuvent être compris ou saisis que par la foi, nous recevons au plus profond de nous-mêmes une assurance, des certitudes, des convictions qui vont nous permettre maintenant de dominer le péché. Ce n'est pas tout. Lors du prochain message, nous nous arrêterons sur ce qui fait partie maintenant de notre héritage. Parce que Dieu à préparer pour ceux qu'il aime, pour ceux et celles qui sont passés par cette nouvelle naissance, tellement d'éléments, tellement de choses, tellement d'outils, un revêtement qui va nous rendre capables de dominer le péché. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Et c'est ce que nous allons voir dans un des prochains messages. Mais ce matin, nous allons nous arrêter ici. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes en marche. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin, te rendre grâce parce que c'est vrai, nous étions pécheurs et un voile nous couvrait, nous rendant incapables de voir ces réalités spirituelles. Mais par ton sacrifice, Seigneur, le voile a été ôté. Et maintenant, nous voyons, Seigneur, ce que tu as accompli. Nous te bénissons parce que nous entrons dans ce « tout est accompli en toi ». Tu as accompli le problème de la loi. Tu as accompli le problème de ce monde spirituel en rébellion contre toi. Tu as tout résolu, Seigneur. Et nous voulons te prier ce matin pour que tu continues d'illuminer les yeux de notre cœur afin que nous sachions. Ces choses habitent nos vies, habitent nos cœurs pour continuer de croître, de grandir, de progresser dans cette vie nouvelle que tu nous accordes afin de pouvoir dominer le péché à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur, vous bénisse.